premier service. Deuxième service. Du lundi au vendredi à 12h et 17h. Invités, reportages, chroniques et musique.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur JetFM. On est ensemble pour une soixantaine de minutes et on va faire la part belle à un événement, une journée de mobilisation citoyenne, ambitieuse, originale, alternative, c'est sans doute le maître mot. Ça s'appelle Alternativa, ça va se passer à Nantes ce 28 septembre, place du Bouffay et dans les rues adjacentes. Et pour en parler, eh bien, nous avons autour de la table eh bien, des organisateurs et des protagonistes de cette journée alternative. Alors, je vais commencer par la seule femme qui est présente ici, donc comme on est galant hein, sur JetFM. Bonjour Aurore Carlier.
Bonjour.
Tu es salariée, coordinatrice de l'événement sur la dynamique et l'organisation, c'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça.
Et on verra que cet événement est tout à fait conséquent et que la façon dont il se construit bien, demande peut-être plus de liens que si c'était une organisation verticale et descendante. Mais le fait que justement ça soit, ça parte du terrain, c'est tout l'intérêt. Et ce sont aussi les fruits de cette organisation qui sont attendus. Réfléchir aux alternatives et puis ensuite agir pour changer la donne dans notre monde. Et on verra que le climat est notamment quelque chose qui interpelle et sur lequel on doit agir pour faire changer la chose. Mais pour faire changer le climat, il faut sans doute faire changer le fonctionnement de la société. En substance, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Et on essaye effectivement de faire les choses un peu de façon horizontale, effectivement.
Hugo Bessière est là avec nous. Bonjour Hugo.
Bonjour.
Alors c'est l'homme par lequel finalement le contact a été pris avec la radio et qui fait qu'on est réunis ici. Merci pour ça.
Bah de rien.
Alors Hugo, toi aussi, tu es très transversal dans l'organisation de cette Alternativa nantais.
Oui, en effet, je suis même membre d'ailleurs d'une coordination transversale qui est la communication. Et puis je suis aussi membre d'une commission thématique qui est celle qui gère l'espace alimentation et agriculture.
Ah oui, bah l'alimentation, ça intéresse beaucoup un des invités aussi qui est autour de cette table. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Gilles Davot, alors cuisinier, mais aussi auteur du manuel de cuisine alternative, parrain de l'événement et intervenant dans l'espace alimentation. Alors tu pourras nous parler évidemment des alternatives en cuisine. C'est quoi les alternatives en cuisine ? Je te laisse... Non pas nous répondre maintenant, mais nous laisser un petit peu en suspens. Hein. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il existe des alternatives en cuisine et ce n'est pas du tout anodin.
Ah oui, oui, le changement auquel tout le monde aspire, en fait, se conduit en particulier tous les jours dans la cuisine, dans la façon de manger.
Voilà, donc c'est l'attitude face aux produits qu'on consomme qui peut là aussi être un levier pour changer notre société.
Absolument.
Et puis... se faire plus de bien à la santé, parce que l'agroalimentaire, c'est un vrai souci quand même, en termes de santé publique. Hein.
Mais de toute façon, les injonctions, que ce soit au niveau santé ou environnement ou développement durable, ça ne marche pas en alimentation, il faut que ça passe par le plaisir.
Mmh. Ah, oui.
Et c'est comme ça qu'on peut toucher aussi beaucoup plus largement socialement que juste les seules personnes sensibilisées ou les seuls milieux sensibilisés au départ.
Donc on verra avec Gilles d'ailleurs ce qu'est la cuisine alternative, comment on peut la mettre en œuvre, comment tout un chacun peut la mettre en œuvre. Parce que j'imagine que si on a la bonne méthode, eh bien dans la démarche qui est celle d'Alternativa, c'est tout à fait accessible économiquement et sur la façon de faire les choses.
Voilà, c'est la simplicité, le quotidien, des choses qui se partagent, très simplement.
Je commence à avoir l'estomac qui gargouille là. Hein. Et pour terminer le tir de table, bonjour à Sylvain Gissens.
Bonjour.
Alors, coordinateur de l'espace Habitat. Alors, tu pourras parler évidemment de la dynamique générale, mais aussi, plus particulièrement, des alternatives de l'habitat. Il en existe, on pense aux écoquartiers par exemple.
Oui, tout à fait, on parlera donc de l'habitat participatif, puisque c'est maintenant le nom qu'on donne nationalement aux écoquartiers. Aux éco-hameaux. On parlera aussi de l'éco-construction et de l'aide à l'auto-construction.
Oui, parce qu'on peut bâtir soi-même son logement, c'est possible.
Tout à fait, donc on aura des associations qui aident justement à cela.
Mmh. Très bien, donc gros programme pour cette heure d'émission, un peu moins d'une heure maintenant. Je serai complet dans cette présentation en précisant que c'est Damien Fourcault qui réalise ce moment de radio. Alors il y a un film documentaire de 36 minutes qui a été réalisé lors d'Alternativa première édition. C'était à Bayonne il y a quelques mois. Alors peut-être Hugo va me préciser quand c'était exactement à Bayonne, cette première d'Alternativa.
Voilà, c'était à la fin de l'année 2013, en octobre 2013 plus exactement, dans la ville de Bayonne. C'était la base, le premier pilier de cette pyramide Alternativa. C'était un pari à la base, c'était un réseau basque très solidairement ancré au Pays Basque par l'intermédiaire de l'association BISI, qui veut dire vivre donc en français.
BIZI, hein, ça s'écrit.
Voilà, BIZI. Et donc c'est ce petit collectif qui a fait le pari de former une nouvelle génération, disons, militante par rapport à la problème des règlements climatiques. Et ils ont fait le pari de montrer au plus près des gens, sur la place publique, les alternatives qui existent déjà. Non pas d'annoncer un changement en disant on peut changer le monde, mais de montrer ce qui existe déjà, ce qui est déjà changé par les gens dans leur quotidien, que ça soit dans la santé, que ça soit dans l'économie, que ça soit dans la cuisine, que ça soit dans l'habitation, etc.
Et ce pari, les transports.
Dans les transports, etc. Ouais. Dans tous les domaines qui touchent au quotidien des gens. Et ben ce pari, il a fonctionné parce que c'est plus de 13 000 personnes qui ont répondu présentes ce jour-là. À la fin de cet épisode, il y a eu un appel à lancer 10, 100, 1000 alternativas à travers la France, l'Europe et pourquoi pas le monde.
Et puis on va dire sans tarder que ça marche, puisque cette initiative de fin 2013 est en train d'essaimer. Parce que tu me disais avant qu'on ne prenne l'antenne, Hugo, qu'il y avait une quarantaine de villes déjà en France, mais pas que, qui y allaient de son alternativa.
Exactement, donc c'est la deuxième marche de cette pyramide. Après Bayonne, il y a eu un appel de la compagne de Stéphane Hessel, donc à lancer plusieurs alternativas. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une quarantaine d'alternativas en gestation, principalement en France, parce que ce mouvement est parti de la base française, mais qui aujourd'hui se pollinise à Bruxelles, se pollinise en Bosnie, se pollinise en Autriche, se pollinise en Allemagne. Pour l'année 2014, il y a déjà celui d'Agen qui était le week-end dernier, le 13 septembre, et il y aura bien entendu les trois gros villages, disons des alternatives, Nantes, Gironde à Bordeaux et à Lille, mais il y aura aussi des petits alternativas tout aussi importants comme celui de Gonesse en Ile-de-France ou celui de Saint-Jean-de-Luz tout près de Bayonne.
C'est l'histoire du tableau impressionniste, hein, les petites pointes comme ça de couleur composent le tableau et on est plus fort quand on y va, plus nombreux, on pourrait dire ça.
C'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas une nouvelle association qui s'est créée pour lutter contre ou pour promouvoir pour. On est une dynamique, un processus avec des citoyens qui cherchent à fédérer tout ce qui existe déjà et à le montrer sur la place publique. Ça, c'est très important dans l'Alternativa et c'est ce qui marche aujourd'hui. C'est vraiment ce mouvement collectif, ce faire ensemble. Et vous parlez de tableau impressionniste, la métaphore est très belle, c'est exactement ça. On cherche à faire polliniser ça dans plein de villes, plein de villages. Et la troisième marche de la pyramide sera de refaire le tableau, mais tous ensemble, à Paris, le jour des négociations des chefs d'État et de gouvernement sur le climat.
Ça va être fin 2015. Hein.
Exactement.
Cette grande conférence sur le climat, conférence mondiale. Tu faisais référence à la femme de Stéphane Hessel, hein, Christiane Hessel, puisque Stéphane Hessel était le parrain du premier Alternativa. Hein.
Voilà, c'est pas anecdotique qu'un grand résistant qui a compris qu'après la Seconde Guerre mondiale, il fallait changer le système et par toute sa détermination, ce qu'il a repris aujourd'hui au XXIe siècle par son petit manuscrit « Indignez-vous », parraine un tel événement. Il se trouve qu'il est décédé malheureusement avant la tenue de cet événement, mais sa femme, qui est tout aussi engagée que lui, a su très bien le représenter ce jour-là.
On l'entendra peut-être quelques secondes, Christiane Hessel, à la fin de notre rencontre, si on a le temps, si on déborde pas trop, puisque j'ai un petit peu préempté quelques passages du documentaire de 36 minutes qu'on trouve très facilement, qui a été tourné à l'occasion de ce rassemblement alternatif de fin 2013 dans le Pays Basque, à Bayonne exactement. Et tiens, et pour commencer, pour nous mettre dans le bain de notre discussion, et on va continuer à parler d'alternatives de ce rassemblement citoyen, responsable, j'allais dire, qui se tiendra le 28 septembre à Nantes, quartier du Bouffet, et dans les rues adjacentes. Je vais y arriver. On va écouter Geneviève Azan et Christophe Casson. Geneviève Azan, très connue, économiste et porte-parole d'Attaque. Et puis Christophe Casson, lui, il est climatologue et chercheur au CNRS. Ça dure un peu plus d'une minute et ça va nous donner des perspectives pour nouer conversation tous les quatre. Voilà, je rappelle que vous êtes sur JTFM.
Nous vivons dans une ère, une nouvelle ère depuis 12 000 ans, qui est une ère dans laquelle le climat était tempéré. Et ce climat tempéré sur la Terre a permis en particulier le début de l'agriculture, ce qu'on a appelé les révolutions néolithiques, et la domestication des espèces du fait de ce climat tempéré. Il y a une évolution naturelle du climat, mais les changements climatiques que nous vivons aujourd'hui, et le rapport du GIEC le confirme, viennent de l'activité humaine.
Si l'on regarde le résumé aux décideurs, il y a ces quatre conclusions principales sur le XXe siècle. Il est écrit qu'il était extrêmement probable que l'élévation de la température globale de la planète depuis le milieu du XXe siècle soit attribuable aux activités humaines. Alors extrêmement probable, dans le langage de GIEC, ça veut dire plus de 95% de chances que ça soit le cas. Alors un scientifique ne vous dira jamais 100%, parce que ça n'existe pas, mais plus de 95% de chances, on est au maximum possible au niveau statistique de l'attribution de l'activité, l'attribution du réchauffement climatique aux activités humaines.
Voilà donc Geneviève Azan, économiste et porte-parole d'Attac, qu'on entendait en premier dans cet extrait, puis Christophe Casson à l'instant. Il n'y a plus de doute là, messieurs et madame, le climat est bien perturbé par l'activité humaine, quoi qu'en dise Claude Allègre.
Claude Allègre a beau être un ministre de l'éducation avec des idées certes innovantes, il est totalement dans l'inertie, dans le verrouillage, si ce n'est dans le conservatisme des lobbies pour ce qui est du climat.
Donc voilà, puis je crois que son propos est beaucoup moins entendu qu'il y a quelques années, mais il a semé le doute, hein, voilà. Et le GIEC quand même, qui est le groupe des scientifiques qui étudient le climat, ce ne sont pas des fanfarons, hein, ou des gens qui sont mis à la science avant-hier, donc leur reconnaissance est tout à fait acquise dans le monde scientifique et bien au-delà. Donc le climat est perturbé, c'est dû à l'activité humaine. Et si on ne change pas les activités humaines, si on ne trouve pas des alternatives, eh bien, on va dans le mur. C'est en quelque sorte ce que l'on pourrait dire. Et ce qui fait que eh bien, beaucoup se bougent de plus en plus pour faire en sorte qu'on consomme vraiment différemment. Alors, je le disais, le 28 septembre, c'est un dimanche, hein, aura lieu à Nantes Alternatiba, à l'instar de ce qui va se passer dans une quarantaine de villes, avec ces villes un peu phares, hein, ce que nous disait Hugo, hein, ce qui va se passer à Bordeaux, à Lille, à Nantes, mais à Agen, ça s'est passé il y a quelques jours. Alors, comment vous avez essayé de décliner cette proposition, je ne sais pas qui veut me répondre. Vous avez thématisé habitat, alimentation, transport. Comment ça se passe et comment se structure finalement ce rendez-vous?
Ce village effectivement se compose de 10 thématiques. Donc à chaque fois, on rentre dans un espace. Espace recyclage et valorisation, espace éducation, espace habitat, énergie, alimentation, agriculture. Voilà, il y en a 10, ça touche à tous nos domaines. On peut tous les dénombrer, hein, s'il le faut, je sais pas.
Santé,
bien-être aussi.
Oui.
Voilà, il y a des alternatives pour tout ça.
Voilà, alimentation, gouvernance, transport, éducation, économie, habitat, énergie, moyens de communication, échange.
Voilà.
Donc ça fait un spectre très large.
Oui, c'est assez large en effet. Et l'idée aussi, c'est que ce soit des acteurs locaux quand même qui présentes viennent dire ben, « moi je propose ça, il y a ça qu'on peut faire, qu'on peut tous appliquer aussi à notre manière, c'est aussi une des idées, de pouvoir s'approprier les choses.
Voilà. » L'idée aussi c'est de aussi peut-être recenser dans une journée quelles sont ces alternatives présentes sur le territoire, de donner de la visibilité à ces alternatives et faire en sorte que les acteurs puissent se rencontrer et que d'autres puissent se joindre à ces acteurs qui œuvrent déjà depuis un certain temps.
Oui, exactement. Ouais. Ça, c'est une des grandes idées, c'est de faire se rencontrer, faire les choses ensemble, pour qu'après, y a d'autres projets qui émergent et que tout ça se concrétise encore sous d'autres formes.
Alors, l'organisation, nous le disions au début de notre conversation, ce n'est pas une organisation verticale où il y aura un mode d'emploi alternatiba, vous faites comme si, phase 1, phase 2, phase 3, mais c'est le terrain, ce sont les acteurs eux-mêmes qui vont définir en quelque sorte comment va s'organiser cette journée. Concrètement, quelle forme ça prend, ça, cette organisation, cette, j'allais dire presque un gros mot, l'autogestion de cette organisation?
Oui, c'est ça quand même l'idée intéressante d'Alternativa, c'est que c'est vraiment citoyen. C'est des gens qui se sont levés ensemble et qui ont dit « on fait ça ». Et donc du coup, il y a pour ça des réunions qui sont ouvertes à tous, de coordination pour organiser ça.
Donc ça veut dire que depuis un certain temps, il y a des réunions, il y a une mise sur les rails de ce projet, c'est bien ça ?
Voilà, depuis déjà pas mal de mois, en effet. Et donc, à chaque fois, il y a de nouvelles personnes qui peuvent arriver, qui peuvent aussi interagir avec ce qui se dit, ce qui se passe. C'est le projet de tout le monde.
Très concrètement, sur la place du Bouffay, dans les rues adjacentes, on va voir des stands, par exemple, de structures qui vont être présentes. Il y a presque une centaine de stands, je crois, qui sont présents.
On est arrivé à une centaine, 120 stands. Excusez-moi, 120 organisations, une centaine de stands, 55 animations, conférences, presque 200 bénévoles et 10 espaces thématiques. Vous disiez très justement qu'il y aura des stands, en effet, des porteurs d'alternatives, comme on les appelle, mais il y aura aussi des conférences organisées dans les cafés, du Bouffay ou dans les salles qu'on a pu trouver sur ce que les citoyens eux-mêmes ont voulu mettre sur la place publique à discuter. Et puis, il y aura aussi des animations. On parlait de Gilles tout à l'heure. Il y aura une découverte, par exemple, de la cuisine avec du végétal. Il y aura aussi des animations. Sylvain pourra très bien en parler sur l'éco-habitat. Il y aura des animations sur l'énergie, etc. Il y aura aussi des espaces détente avec du yoga. Et très important, parce que c'est ceux qui nous suivent, un espace éducation.
Alors, avec des acteurs quoi, d'une école alternative ou de l'école alternative, ce sera quoi ? Quels acteurs à l'intérieur ?
Alors, à l'intérieur de cet espace, il y aura bien sûr les écoles alternatives représentées. Il y aura aussi des façons de jouer différentes, des façons d'apprendre différentes par la coopération plutôt que par la mise en concurrence et le système de notation. Voilà. J'en sais pas plus parce que c'est pas moi qui gérais cet espace. Je sais que ces alternatives-là seront bien présentes ce jour-là.
Oui, et puis c'est compliqué d'avoir une connaissance très précise de toutes les propositions parce que, avec 100 organisations présentes, 100 structures présentes, c'est effectivement, on voit bien la largeur du spectre également. En termes d'horaire, cette journée du dimanche 28 septembre, quartier du Bouffay, ça va être très plein parce que ça commence relativement tôt, c'est à 9h je crois, c'est ça ?
Alors, ça commence de 9h le marché paysan, mais sinon les stands ouvrent de 10h jusqu'à 19h.
Et donc avec tous ces rendez-vous dont nous parlait Hugo, avec ces rencontres
avec des animations, des conférences dans les cafés, des concerts également, des espaces restauration, que les gens puissent connaître aussi les différents modes de restauration qu'on propose. Donc je peux vous parler de la partie Habitat, on aura deux conférences, une sur l'auto-éco-construction justement, et une sur l'habitat participatif. On aura aussi des animations, terre crue, petits écrans pour les petits écrans, pour que chacun s'approprie la terre.
D'accord.
Et un enduit terre aussi proposé par CELID.
Alors justement sur ce thème, si on s'arrête un petit peu au thème de l'habitat alternatif, on aura démonstration, je sais pas, de fabrication d'éléments de mur en paille.
Donc,
c'est jouable ça?
Les éléments de mur en paille, pas possible cette année, mais par contre, justement, les briques de terre crue seront montrées pendant 2 heures. Donc, pour petits et grands, à manier comment la terre avec les assemblages, mais aussi les enduits. Chacun pourra s'essayer à faire de l'enduit. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire, c'est que chacun puisse justement mettre à main la pâte.
Donc, il y a un côté informatif, mais il y a un côté ludique presque, parce que c'est...
Tout à fait.
On essaie de se colter une technique qu'on n'a pas forcément. Et donc, évidemment, il y aura une médiation qui sera faite par les acteurs eux-mêmes. Quand on parle d'habitat alternatif ou d'habitat participatif, faut reprendre, on pense aux acteurs locaux, on pense à Écohabitants, on pense à HN, par exemple. Il y en a d'autres qui sont à l'œuvre depuis longtemps.
Oui, tout à fait. Donc, sur le festival, justement, il y aura Écohabitants et Habitat Énergie Naturelle qui œuvrent depuis plusieurs années justement à monter des projets d'éco-hameau. En réunissant donc des groupes de personnes, ils ont notamment arrosé les petits moulins à Bouvron, plus dans le nord du 44, et aussi récemment à Boîte Noire, et aussi à Escapade. Donc des réunions sont organisées aussi récemment pour visiter ces nouveaux lieux.
Arroser les petits moulins, hein, c'est l'habitat alternatif, participatif, avec une partie logement social.
Tout à fait, c'est bien ça.
Donc voilà, c'est pas quelque chose de boboisé, mais qui répond vraiment à un besoin social de logement pour des personnes qui ont des difficultés. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ont des difficultés à se loger, mais voilà, réalisation concrète, on n'est pas dans quelque chose qui est complètement hors sol, j'allais dire, mais qui arrive à une concrétisation. Dans notre conversation, alors le champ est très large, encore une fois, de notre conversation, on va faire des petites pauses comme ça, sonores et musicales. Il y a des invités musicaux, Hugo, hein ?
Ah oui, il y a évidemment des concerts qui sont prévus le jour J. Alors, on est en train justement de fixer les derniers préparatifs pour ces concerts-là, mais il y a d'ores et déjà des groupes qui seront présents, des petits comme des grands, c'est-à-dire des petits groupes qui seront plus dans la rue, dans l'animation du village, en se déplaçant, etc., au sein des espaces. Et puis nous avons deux scènes. Nous avons une petite scène devant l'église, et puis nous avons une grande scène Place Bouffet.
Alors, dans l'église, c'est l'église
Sainte-Croix.
Sainte-Croix, voilà, ouais. C'est ça. Hein.
Oui, exactement, avec une buvette aussi également à côté. On aura des groupes de chansons françaises, des groupes de musique un peu plus bretonne, fest-noz, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que l'identité bretonne est assez importante.
Et puis Nantes est en Bretagne, hein, voilà. Historiquement, il n'y a pas de doute, hein, même si après les bisbis régionales, c'est autre chose.
Voilà, voilà. Donc voilà, oui, on aura une programmation de concert qui est en train de se fignoler, mais qui sera bien présente le jour J.
Alors moi j'ai été regarder un petit peu là. Il y a des groupes que je connais. Alors très honnêtement, j'en connaissais pas un seul. Et pour cause, c'est pas les Stones, c'est pas voilà. Ça serait compliqué. Alors parmi les noms, hein, je vais les situer. La Tropiloire ou alors Il et Elle. Comme AILES, Duo Étienne, Deep So Man Band, ça c'est du blues, je crois.
Exactement.
Macadam Bazar, mais c'était pas encore sûr ça. Hein.
Voilà, c'est plus de la chanson française sur des airs marins.
D'accord, ok. Ils n'étaient pas sûrs au moment où j'ai reçu l'info.
Voilà, parce que si vous voulez, on a souhaité privilégier les acteurs locaux, évidemment, de concert. Et il se trouve que Macadam viendrait plutôt du sud de la France. Donc on a des débats en interne, vu qu'on fonctionne horizontalement, sur le fait d'octroyer un défraiement à des gens qui viendraient de très loin. Voilà.
Et oui, et parmi les autres groupes ou formations ou artistes, un débit de fagot.
Voilà. Ça, c'est plus des compteurs pour les enfants avec un fond musical.
Et puis quelque chose qui m'a beaucoup plu, et Damien qui réalise cette émission le salut a bien plu aussi, c'est le bruit-colleur. Alors le bruit-colleur, c'est quelqu'un qui travaille avec des éléments végétaux, hein, je crois, j'ai vu ça. Alors on a extrait un petit peu, parce qu'il y avait un extrait de 9 minutes, on ne va pas passer en son entier, mais un peu pour se mettre en appétit au niveau des oreilles, on va écouter voilà, ce que fait ce bruit-colleur. Voilà, tout est dans l'intitulé, finalement. C'est quelqu'un qui bricole et puis qui nous propose des sons qui sont bien agréables à l'oreille, on l'écoute. En fond le bruit-colleur, c'est un artiste, quelqu'un qui recycle, qui valorise, qui sera audible et visible dans le cadre d'Alternativa Nantes 2014, le dimanche 28 septembre, du côté du quartier du Bouffet. Nous parlons de cet événement parce que c'est un événement avec nos invités, avec Aurore, avec Hugo, avec Sylvain et avec Gilles. Gilles Davaux, les alternatives, il connaît bien. Et l'alternative dans nos assiettes, il la pratique finalement, Gilles. Puisque je le disais, tu as écrit un magazine manuel, un manuel de cuisine alternative, et que ce manuel, bon, j'imagine qu'on pourra se le procurer dans le cadre de l'Alternativa, mais que tu vas proposer également une initiation à la cuisine alternative.
Voilà, donc en fait, c'est juste pour faire le lien avec le manuel, c'est l'expérience d'un peu plus de 25 ans de cours de cuisine dans l'Ouest et aussi dans toute la France pour former les cuisiniers des cantines à utiliser des produits locaux, des produits frais, des produits bio. Et en fait, quand on parle d'alternative au niveau de l'alimentation, c'est la notion de manger autrement. On voit à peu près, tout le monde a une bonne idée, je pense, de ce qu'on appelle aujourd'hui la malbouffe ou la tendance un peu centrale de nos alimentations dans nos pays riches, qui est quand même souvent très, très axée sur les protéines animales, sur la viande, le poisson, les œufs sont centraux, les produits laitiers sont centraux dans les habitudes alimentaires.
Avec des modes de production qui sont très, très, très coûteux. En eau, par exemple, pour la viande.
Voilà, mais c'est parce que quand 500 ou 600 millions d'Européens mangent effectivement de la viande tous les jours, les systèmes de production sont des systèmes intensifs, avec des filières dont on sait tous qu'elles sont un peu absurdes, avec le soja du Brésil qui termine en algues vertes sur nos plages en Bretagne.
Ce qui se passe dans le nord de la France avec la ferme des 1000 vaches, là, où les premières vaches commencent à arriver. Hein.
Voilà, donc c'est vraiment cette façon de penser la production animale. Elle est, et nous on voit bien quand on va dans les cantines un peu partout en France, tout le monde a conscience que ça dysfonctionne. Les marchés publics avec du porc qui s'achète à 3 euros le kilo en même temps qu'on se gargarise de produits bio, locaux dans les politiques publiques, il y a quelque chose qui connecte pas. Et au fond, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'apprendre à manger un peu différemment. S'il y a aujourd'hui des filières qui prospèrent sur cette production massive de viande, de produits laitiers, etc., c'est parce qu'on a complètement intégré ça dans nos modes de vie. Et on n'est pas que des victimes, on est aussi des acteurs au quotidien. Et il y a un vrai... Ce qu'on constate vraiment, et ce qu'on va venir proposer à Alternativa, c'est vraiment la découverte avec des amis, des collègues qui travaillons à la pédagogie culinaire, à montrer des méthodes de cuisine très simples. Ce qu'on va montrer, c'est vraiment des choses qui permettent de bouger dans sa façon de manger. Comment on peut, à budget égal, y compris pour des tout petits budgets, introduire plus de produits frais, de produits de saison, travailler avec les produits qu'on trouve sur le marché ou dans les filières de qualité ou dans les paniers AMAP.
Qu'est-ce qui constitue un exemple d'alternative pour vraiment illustrer ton propos, Gilles? Qu'est-ce qui peut constituer une alternative, j'allais dire, réaliste que l'on peut pratiquer au jour le jour, enfin voilà, s'approprier pour le reste de sa vie. Un exemple.
L'alimentation alternative, au départ, ça a été utilisé, c'est un autre mot pour l'alimentation végétarienne, en fait. Hein. C'est-à-dire que l'Institut Pasteur, dans son restaurant à Lille, dans les années 80, à ce moment-là, quelqu'un qui est sensible aux enjeux de santé publique, aux enjeux planétaires, et qui propose qu'à côté du menu classique, il y ait des menus sans viande. Et aujourd'hui, souvent, on résume le repas alternatif ou la cuisine alternative à ça. C'est-à-dire, puisque tu me demandes un exemple concret, la notion de faire un repas végétarien, je pense que tout le monde dans la pièce ici l'a déjà fait, ça fait partie des choses à peu près ordinaires. Mais socialement, au niveau très large dans la société, il faut comprendre que la viande est un aliment extrêmement important culturellement. C'est une richesse dans l'esprit et dans l'esprit collectif.
Avoir son beefsteak quotidien, on entendait ça quand, il y a quelques années, on entend moins peut-être.
Il y a un an ou deux, sur un plateau de télévision, je voyais encore quelqu'un qui disait mais ne plus pouvoir se payer sa viande, c'était vraiment le signe encore, et dans les milieux les moins favorisés, d'un décrochage. Donc c'est un élément extrêmement fort socialement. Apprendre à faire des repas avec un peu moins, beaucoup moins ou pas de viande, ça fait partie de ces alternatives. Et ça se passe très simplement en réapprenant à cuisiner des lentilles, des haricots, des céréales qui peuvent être produits localement. Et Alternativa, en fait, cette proposition d'être présent avec mes collègues à faire des ateliers cuisine, c'est parti d'une rencontre avec un producteur du pays de Châteaubriand, le Gaëc Rouillon, qui montre tout à fait le passage à autre chose, c'est-à-dire que c'était une ferme en 100% exploitation laitière, sur les modes habituels, intensifs et maïs-soja, qui a peu à peu bougé dans ses pratiques et notamment en diversifiant ses productions, avec des productions de sarrasin, des productions de colza, de tournesol. Une partie du tournesol est utilisé pour alimenter les tracteurs. Et donc, il y a vraiment une réflexion sur ce qu'une exploitation produit. Et j'ai rencontré donc Daniel Durand qui parlait de son exploitation. Et je lui ai dit, si tu viens à Alternatiba montrer ton sarrasin, moi je viendrai montrer comment on cuisine le sarrasin. Cuisiner du sarrasin, c'est un exemple très concret de ce qu'on peut faire tous du sarrasin produit localement. Tout le monde mange des pâtes, du riz, qui sont pas de production locale. On peut aussi, parmi les féculents qu'on utilise quotidiennement, réapprendre à utiliser ce type de produit.
Alors le 28 septembre, tu seras au fourneau avec, je sais pas, des poêles, des casseroles, des choses comme ça. C'est ces produits là que tu nous décris et tu montreras en exécutant cette cuisine que ça c'est possible. Autre cuisine est possible.
On va se faire un petit stand culinaire aux alentours de midi, 13h. Moi, je montrerai des préparations autour du sarrasin, du colza, du tournesol et en particulier avec le sarrasin, comment faire très simplement la garniture pour accompagner un plat, pour faire une petite salade, des tomates farcies, des galettes, enfin, tout un tas de petites choses qu'on peut faire au quotidien avec ce produit-là. Et puis Christelle Hubi, une amie qui fait aussi des ateliers, viendra autour d'un panier AMAP de circonstances qu'on aura pris avec l'Inter-AMAP là, du département, montrer des savoir-faire sur les modes de cuisson très simples, des modes d'accommodement de légumes. Ça, c'est un des freins pour les gens pour consommer local. Il y a une perte de savoir-faire au niveau des légumes. Aujourd'hui, on a des recettes de gastronomie qui circulent, mais au fond, c'est pas comme ça qu'on mange au quotidien le soir chez soi. On mange pas des verrines de betteraves le quotidien. Au quotidien, on a besoin de réapprendre des choses extrêmement simples. Et donc, Christelle montrera des petits savoir-faire autour d'un panier de légumes en improvisant avec les personnes qui assisteront. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette offre en ce moment ? Et puis, un collègue formateur avec qui on intervient un peu partout en France dans les cantines, il s'appelle Bruno Couder, viendra présenter des possibilités aussi de redécouverte des légumes secs. Et donc, avec les haricots, les pois, les lentilles, comment on peut faire de l'apéritif jusqu'au dessert, des choses extrêmement simples et créatives.
On a l'impression, je vais avoir un propos optimiste, mais que les choses commencent à bouger, peut-être un peu trop à la marge, mais c'est vrai que les AMAP notamment, auxquelles tu fais référence, ont permis déjà d'avoir, permettre à nombreuses personnes, pas suffisamment de personnes sans doute, mais de redécouvrir des produits sains, issus d'un producteur que l'on voit, qu'on peut toucher, qui est en proximité, et ça a permis cette initiative, qui n'est pas finie, hein, je crois que ça grossit tout le temps, de redécouvrir aussi des légumes qui étaient complètement oubliés.
Voilà, c'est un schéma de alternatif à la distribution classique. Hein. On n'est plus là encore dans des concentrations et des modes de distribution coûteux en énergie, c'est vraiment se remettre en phase avec le territoire local, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même des milieux souvent assez spécifiques qui sont sensibles à ça. Aujourd'hui, vraiment, la problématique, et c'est pour ça qu'Alternatiba est intéressante, c'est de donner à voir des choses. Parce que dans beaucoup de milieux, la notion de manger local, de s'abonner à un panier AMAP, c'est vraiment pas dans les préoccupations prioritaires. Et d'avoir l'occasion de découvrir ça, d'avoir l'occasion de découvrir une cuisine très simple et peu coûteuse qu'on peut faire avec des produits bio, c'est-à-dire un peu ce bug mental de comprendre qu'avec des aliments qu'on a payé le juste prix, cher, on peut faire des alimentations extrêmement économiques et accessibles à tous, notamment par les protéines végétales. Donc vraiment, c'est découvrir ça, le rendre visible. Et puis, c'est aussi l'intérêt, et on sera là pour parler de ça, du bio dans les cantines. Aujourd'hui, dans les cantines sur l'agglomération nantaise et plus largement dans le département et dans la région, ça bouge pas mal. On pourra en parler parce qu'on voit souvent ça, nous, sur le terrain. Et le bio dans les cantines, c'est vraiment le bio pour tout le monde. Et c'est pas le bio, l'idée c'est pas de faire venir du bio qui a fait 5000 km, hein, c'est vraiment de remettre la cantine en phase avec son territoire.
Donc ça veut dire que quand on rencontre la volonté politique, on peut, dans les assiettes, avoir des choses qui fassent du bien à nos enfants, enfin aux plus jeunes en tout cas.
Il faut une volonté politique, mais c'est vrai que tout ça vient des citoyens, c'est parce qu'on découvre tous, on partage et on invente des nouveaux modes de consommation que les politiques souvent bougent.
C'est très politique la bouffe. Hein.
Ah, la bouffe, c'est transversal. Ça va vraiment du plus intime, hein, c'est-à-dire qu'on a tous des moments et des souvenirs exceptionnels liés à la nourriture. Et puis, quand on regarde, ça touche encore tous les aspects de la vie humaine. Ça touche effectivement la vie individuelle, la santé individuelle, la sécurité sociale. Ça touche l'éducation au goût. Aujourd'hui, manger pour des enfants, manger du coca, du Nutella, des chips, des nuggets, si vous laissez c'est quelque chose d'extrêmement répandu. C'est un schéma dominant. Moi, je ne vais même pas faire de jugement de valeur là-dessus. Il faut simplement comprendre que les enfants se construisent de ces repères gustatifs-là. Et qu'après, pour eux, un panier AMAP avec des chouraves, des céleris et des fenouilles, parce que c'est ça qu'on produit sur le territoire à une époque, c'est à des milliers de kilomètres. Donc il y a vraiment cette dimension éducative et puis cette dimension sociale. Le temps de repas, c'est un temps convivial et on est plutôt de plus en plus sur des schémas où il faut manger le plus vite possible, chacun avec son petit écran devant et pour retourner vite dans le flot.
Devant sa lunchbox.
C'est ça, hein, c'est... Avec des salades bio. Oui. Voilà, donc c'est montré que voilà, il y a par la transversalité de l'acte alimentaire, en fait, on peut vraiment, vraiment changer le monde. C'est vraiment.
Alors, justement, toi qui vas un peu partout en France, hein, Gilles Daveau, justement, porter une parole de sensibilisation à tout ça, tu as l'impression qu'il y a une conscientisation qui est en train de se construire malgré tout. Comment ça se passe? Quel est ton ressenti par rapport à la réception de ce que tu dis, pas de ton message, mais de ton propos en tout cas?
Alors, pour faire la boucle avec ce qu'on a, on a démarré par le changement climatique. Je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, à peu près tout le monde sait qu'il y a un changement climatique. Tout le monde sait qu'il y a de la malbouffe. Tout le monde sait que le pétrole, ça va s'arrêter. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est de changer. Et c'est ça le sens d'Alternativa, c'est de montrer qu'il y a en œuvre aujourd'hui des changements. Moi, quand on va dans les cantines dans le Pays Basque, en Bretagne, en PACA ou dans l'Est, on voit des cuisiniers qui savent très bien qu'il y a des problèmes de malbouffe, mais qui, pour un tas de raisons, continuent à avoir une offre assez standardisée, avec beaucoup de produits industriels, avec dans les écoles des enseignants qui sont, je schématise, hein, mais qui sont souvent assez peu sensibles à ces questions-là, parce qu'ils sont dans leur matière, et qu'ils n'ont pas vu peut-être que si la cantine proposait une offre de qualité, il y aurait matière à démultiplier l'acte éducatif. Et voilà, donc on sent qu'aujourd'hui tout le monde est conscient, mais assez peu de gens connaissent de près la possibilité très simple de changer des choses dans son quotidien, dans sa vie, sans forcément se marginaliser. Hein. Et que le problème, c'est pas d'être 100% bio, 100% végétarien, 100% parfait, c'est plutôt d'aider tout le monde à faire des pas en avant. Et en découvrant effectivement des repas un peu différents, des produits différents, et en rencontrant, parce que c'est quand même une clé, les acteurs de l'agriculture du territoire. Parce que c'est aussi cette déconnexion qu'il y a depuis 100 ans, une population massivement rurale qui devient massivement urbaine et qui ne sait plus la saison des tomates, qui ne sait plus la réalité de ce qui pousse et qui a besoin de redécouvrir ça au quotidien dans sa façon d'acheter, dans sa façon de composer des repas.
Et ça passe par l'éducation sans savoir, ah oui. L'information, c'est ce que tu fais, ce que Alternativa va proposer sur ce volet alimentation et bonne alimentation. Juste en quelques secondes, il y a quelques temps, il y a une loi qui est passée sur dans les restaurants. Les restaurateurs devaient indiquer si c'était fait maison ou pas. Ça, c'est une grosse fumisterie, ça, non ?
Alors, je connais pas, je ne sais pas quel est le système de contrôle. Le fait de faire maison, ça reste important. Mmh. Aujourd'hui, de faire avec de la farine, des œufs, du beurre, du lait, en prenant des produits tout à fait classiques que tout le monde pratique largement dans la société, il y a une vraie différence entre le gâteau qu'on fait avec ça ou le 4 quarts en bar industriel. Mais comment c'est vérifié? Aujourd'hui, je suis un peu dubitatif.
Oui, voilà. Et apparemment, tu n'es pas le seul. Effectivement, on parle d'alternative, on parle d'Alternativa, événement dédié aux alternatives alimentaires. Il y en a et on peut le faire d'ailleurs assez facilement. J'en juge par les propos de Gilles, alternative à l'habitat, alternative au transport, les alternatives à l'énergie et puis peut-être l'alternative aussi financière. On est dans une financiarisation qui nous bouffe tous. J'extrais du documentaire qui était tourné à propos d'Alternativa Bayonne. J'extrais quelques secondes des propos de quelqu'un évidemment que tout le monde connaît autour de la table, j'imagine, Patrick Vivray, on se souvient de son bouquin d'il y a quelques années, Reconsidérer la richesse. Eh bien, on va l'écouter quelques secondes, Patrick Vivray. Il nous parle d'ailleurs de paradis fiscaux, oligarchie financière, ça dure à peu près 45 secondes. On l'écoute et on revient à notre conversation ensuite.
L'un des enjeux, c'est d'aller s'attaquer à tout le système de l'oligarchie financière. Et vous avez là un énorme paquet de financements. On est toujours en train de chercher des financements. Vous avez entre 26 000 et 32 000 milliards de dollars dans les paradis fiscaux. Et là, ce n'est pas la presse alternative qui le dit. C'est l'ancien chef économiste de McKinsey. Et ces 32 000 ou ces 26 000 milliards de dollars, ils sont détenus même pas par 1% de la population mondiale, même pas par 0,1%, mais par 0,01%. Donc si on veut s'attaquer pour de bon au dérèglement climatique, il faut s'attaquer aussi au dérèglement financier.
Voilà, Patrick Vivray, s'attaquer au dérèglement financier, le dérèglement climatique, le dérèglement alimentaire. On est quand même dans une société grandement déréglée. Il va falloir peut-être mettre les compteurs à jour, enfin essayer de changer de logiciel en tout cas, parce que c'est sûr que si on continue comme ça, on va à la catastrophe. On parle d'Alternatiba, ça va se passer le 28 septembre. On est toujours avec Gilles Davaux, qu'on vient d'entendre, cuisinier auteur du manuel de cuisine alternative, parrain de l'événement, Aurore Carlier, qui est coordinatrice de l'événement, Hugo Bessière, très transversal, qui a été aussi l'auteur d'une chanson d'Alternatiba qu'on écoutera sans doute, et puis Sylvain Gissens, coordinateur de l'espace Habitat. Voilà, donc alors évidemment, l'alternative financière, l'alternative économique, elle est également, ça constitue un levier important de ce changement souhaité par ceux qui vont se rendre à Alternatiba, mais j'imagine par beaucoup plus de personnes. Ça aussi, c'est un moteur de changement. Hugo.
Oui, évidemment. Juste une petite précision sur la chanson. Ce n'est pas moi l'auteur, j'y ai contribué.
D'accord,
on l'a fait aussi de façon horizontale, si
voilà,
vous voulez, cette chanson.
Okay.
Bon, on l'a fait en se réunissant, en buvant des coups et puis en faisant une chanson, quoi.
Bien.
Alors, il y a les Phylogénix que je remercie aujourd'hui qui sont aussi à la base de cette chanson. Pour ce qui est des alternatives économiques, évidemment. Aujourd'hui, tout est centré sur un capitalisme financiarisé qui, finalement, ne nous laisse pas beaucoup d'opportunités dans notre quotidien. Et se réapproprier l'alimentation, se réapproprier l'habitat, c'est bien, mais le maître mot du système, c'est aussi comment financer tout ce qui existe. Et finalement, on peut changer aussi dans l'économie en allant, par exemple, placer son argent à la NEF, qui est une banque, justement.
Nouvelle économie fraternelle.
Voilà, c'est ça. Qui se développe d'ailleurs de plus en plus. Et grâce à cette banque, on peut placer son argent. Déjà, il sera résilient parce que la NEF n'est pas du tout dans le système mondialisé et financiarisé. Et en plus, l'argent qu'on va aller placer va justement pouvoir aller aider des projets d'économie sociale et solidaire, des projets pour soutenir des projets locaux, pour soutenir aussi justement de la conversion en agriculture biologique grâce à la foncière Terre de Liens. Enfin, il existe plein de façons aussi de se financer, et aussi par exemple des monnaies locales qui permettent justement de s'approprier un circuit local et de contribuer à faire vivre, à remettre en lien, en connexion, une offre et une demande sur un territoire, parce que c'est aussi ça que la mondialisation a enlevé finalement, c'est la perte de sens économique d'un territoire. Donc tout ça va resservir à relocaliser, à refaire territoire, à refaire finalement société.
Et l'économie sociale et solidaire, hein, dont fait partie évidemment un acteur important comme la NEF, eh bien, est une vraie alternative, une vraie réponse à l'économie dominante et oppressante. Et d'ailleurs, il y a une conférence débat avec Julien Couturier, hein, qui est délégué régional pour le Grand Ouest à la NEF. Ça sera de 11h à 11h30. Comment une banque peut participer à la sauvegarde du climat? Eh bien, poser la question, c'est dire que c'est possible. Et on verra avec Julien Couturier comment ça se déroule. Le financement participatif également, tiens, c'est quelque chose qui grimpe pas mal, le crowdfunding, pour parler en bon français. Et je crois d'ailleurs, vous en servez, vous, dans l'organisation d'Alternatiba Nantes.
Voilà, c'est très juste, crowdfunding, finalement, crowd qui est la foule, hein, aller chercher dans la foule, finalement, les fonds dont on aurait besoin. C'est aussi une démarche citoyenne. c'est-à-dire de présenter via les plateformes numériques en ligne des projets et que les citoyens peuvent s'en saisir et justement apporter leur financement. Mais ils ne l'apportent pas que comme ça, le financement. Il y a tout un descriptif du projet et puis on propose des récompenses en échange. Par exemple, typiquement, on aura des paniers bio pour un don de 30 euros. Par exemple, on aura des cours de yoga du rire pour un don de 40 euros. Par exemple, un repas avec les bénévoles le soir d'Alternatiba pour une somme un peu plus conséquente, etc. Donc voilà comment fonctionne un peu le financement participatif. Et aujourd'hui, de plus en plus d'acteurs se servent de cette voie-là pour financer aussi des projets locaux. Il y aura We Do Good, qui est une plateforme justement d'accompagnement de projets locaux via des dons citoyens, qui sera aussi présente dans l'espace économie du village.
Donc relocalisation, que ce soit pour l'alimentation, pour enfin, voilà, travailler avec des produits ou faire avec des acteurs ou des produits locaux, là aussi c'est un changement de paradigme, hein, par rapport aux produits qu'on va chercher à l'autre bout du monde avec le bilan carbone qu'on peut imaginer. Là, on a affaire. Et la vertu, c'est aussi un recensement de ce qui fait valeur aussi sur le territoire. C'est sans doute ce qui est intéressant et ce qui sera finalement une des choses induites par Alternatiba.
Voilà, tout à fait. On est aujourd'hui à la croisée des chemins. On a eu le XXe siècle avec ce qui nous a apporté de bon et ce qui nous a apporté de mauvais. Et surtout ce dont on s'est rendu compte sur la fin des ressources, le pic pétrolier, le dérèglement climatique, etc. Aujourd'hui, on est au XXIe siècle. Il y a tout un nouveau monde qui est en train de se mettre en marche. Notre objectif, c'est pas du tout de faire de la morale, de pas du tout culpabiliser les gens. C'est vraiment d'aller sur la place publique et de montrer ce qui existe. Voilà.
Donc gros programme, hein, d'Alternatiba, évidemment, étant donné que voilà, les alternatives doivent contester le système en place, donc il y a quand même pas mal d'éléments à mettre sur pied. On va écouter quelqu'un que vous connaissez sans doute, c'est Thierry Salomon. Thierry Salomon, il préside une association qui s'appelle Négawatt. On l'écoute, ça dure 1 minute 23.
Nous travaillons au sein de l'association sur des scénarios de transition énergétique, c'est-à-dire comment, au niveau de notre pays, on peut imaginer jusqu'à 2050 avoir un paysage énergétique différent. Et ce scénario se fonde sur ce qu'on appelle la sobriété et l'efficacité énergétique. Autrement dit, réduire nos consommations, regarder les gaspillages, et puis après derrière, sur la production d'énergie proprement dit, faire appel au maximum aux énergies renouvelables. Et on arrive à ce moment-là à avoir un scénario qui est très cohérent avec la problématique de l'effet de serre, avec les problématiques de changement climatique, qui est un scénario de sortie du nucléaire vers 2035, une sortie maîtrisée du nucléaire, et en même temps un scénario qui anticipe aussi la fin du pétrole, du gaz et des énergies fossiles. Par exemple, c'est un scénario qui indique qu'il va falloir demain pas uniquement construire des bâtiments neufs très peu consommateurs d'énergie, parce que c'est aussi prendre de l'espace, prendre des matériaux, etc. Mais surtout s'intéresser aux 30 millions de logements sur lesquels on a des consommations énergétiques qui sont importantes. Et donc une des propositions, c'est qu'un très grand plan de rénovation énergétique poussé puisse se mettre en place. C'est très fortement générateur d'emplois.
Voilà, Thierry Salomon de Négawatt, une association qui est connue au niveau national effectivement et qui pose qu'un scénario pour sortir du nucléaire, pas dans deux siècles, hein, est tout à fait possible, chiffre à l'appui avec une démarche tout à fait méthodique. Il y a un certain nombre de scénarios d'ailleurs pendant qu'on diffusait cet extrait avec Thierry Salomon. Vous me parliez de deux scénarios. Alors Hugo me parlait du scénario virage énergie-climat et Gilles me parlait du scénario after comme la Terre. Commençons par le scénario virage énergie-climat. C'est complètement lié à ce que nous disait Thierry Salomon.
Oui, voilà, c'est très positif de voir qu'en plus, en parallèle des initiatives citoyennes concrètes, il existe des scientifiques, des citoyens qui se réapproprient aussi finalement les études, la prospective sur ce qui serait bien de faire. Et il existe aujourd'hui de nombreux scénarios qui ont été mis en place, notamment le scénario Négawatt. On a la chance au niveau local, nous, à la région de l'échelle des Pays de la Loire, d'avoir des citoyens qui se sont regroupés ensemble sur leur temps de bénévoles pour construire un scénario virage énergie-climat qui démontre par A plus B, par des chiffres, par des courbes. Voilà, c'est très intéressant de lire tout ça. Il y a un résumé pour ceux qui n'ont aussi pas le temps de lire en profondeur le scénario, qui démontre que la région Pays de la Loire peut tout à fait devenir autonome énergétiquement si elle investit dans les énergies renouvelables, dans les énergies marines, etc. Si elle met en place des politiques de sobriété énergétique dans les bâtiments, dans les lycées, etc. Elle pourrait même devenir exportatrice de cette énergie propre vers les autres régions qui, elles, auraient du mal à se développer. Voilà, et ce qui nous permettrait d'éviter de faire des concessions à Poutine, par exemple.
Et ce qui serait générateur de création, en termes de création d'emplois, j'imagine.
Tout à fait, tout à fait. Tout ce nouveau monde qui est en marche est aussi générateur d'emplois. Mmh. Évidemment qu'on va perdre des emplois dans le système agro-industriel, mais on va en recréer des milliers dans le bio, dans la conversion en biologique. Mmh. Voilà.
Le scénario after, je me tourne vers Gilles.
Alors je vais juste évoquer, parce que je ne suis pas spécialiste d'agronomie, mais c'est le Sol Agro, c'est un institut qui est basé sur Toulouse, qui a fait une étude dans la même démarche, c'est-à-dire en 2050, si on veut être autonome, retrouver une autonomie alimentaire et des pratiques durables en termes d'alimentation, quelles sont les étapes à mettre en place au niveau des conversions en agriculture, au niveau des systèmes et des choix aussi de production. Et ça passe évidemment par un changement dans les pratiques alimentaires chez tout le monde. Hein.
Donc on y revient, bien sûr.
On ne peut pas déconnecter. C'est pour ça que l'alimentation et les pratiques alimentaires sont fondamentales pour inscrire un nouveau modèle de développement.
On est toujours sur JTFM où l'on évoque et vous présentez, messieurs et madame, cette édition nantaise d'Alternativa, rassemblement autour des alternatives. Elles sont nombreuses et si on veut changer notre société, eh bien, il va falloir mettre un peu les mains dans le moteur et peut-être changer des éléments du moteur. Hein, c'est ce que vous nous dites. Tiens, juste une parenthèse, il y a un gros dossier. Là, on parlait d'énergie, on parle de sobriété, on parle de choses comme ça. Notre-Dame-des-Landes, c'est un énorme dossier sur Nantes. Est-ce qu'il y a des choses en lien avec ce projet? Ou est-ce qu'on en a assez parlé et le projet est mort?
En fait, on a voulu plutôt...
Sylvain.
On a voulu justement montrer des alternatives positives. Donc, pas montrer la lutte par rapport à l'entraîneur, que ce soit Nantes Métropole ou la CIPA. Donc, chacun pouvait participer en montrant une alternative positive.
D'accord. Donc, voilà. Donc, on ne sera pas trop sur ce terrain-là non plus, quand même.
On parlera d'alternatives positives par rapport à ce terrain-là, si on le souhaite.
D'accord, très bien.
Je pense que c'est important, quand on montre les alternatives, tous les types d'alternatives sur le territoire, on montre un modèle de société dans lequel il n'y a pas besoin d'aéroport. On n'est pas obligé aujourd'hui de développer ces thématiques-là en étant uniquement dans une optique de lutte contre. Je pense que ce qui peut permettre... D'asseoir des alternatives à des projets tels que Notre-Dame-des-Landes, c'est d'avoir une beaucoup plus grande visibilité sur un autre modèle de développement, sur un autre modèle de vie sociale, sur un autre modèle d'aménagement du territoire, dans lequel tous les secteurs qui seront évoqués dans l'Alternativa sont fondamentaux. Et au cœur de tous ces secteurs-là, je pense qui tenait à cœur à Stéphane Hessel, c'est l'éducation. C'est-à-dire, c'est donner à voir à tous, petits comme grands, des choses à découvrir pour vivre autrement. Notre-Dame-des-Landes, c'est un produit d'une façon de vivre actuelle. Je crois qu'on a besoin aujourd'hui de découvrir des alternatives.
Et de dépasser cette vision passéiste de la société. On va s'arrêter quelques instants, enfin l'émission continue. La chanson d'Alternativa, j'avais promis que je la passerais. Alors Hugo, tu nous as dit que j'étais promu auteur de la... Tu m'as dit non, attention, ça c'est un travail collégial. Parle-nous un peu de la formation qui est aux instruments là.
De la formation
musiciens.
Donc c'est finalement des gens, des amis surtout à la base, hein, qui avaient envie de créer une chanson pour fournir un imaginaire, pour fournir quelque chose de festif qu'on pourrait reprendre à travers le village. Et cette chanson est justement mise en ligne, gratuitement en ligne, pour que chacun s'approprie cette chanson, pour que chacun crée son paragraphe, crée ses paroles, et que ça soit en français, en allemand, en serbo-croate. L'idée, c'est de faire polliniser cette chanson avec vraiment un imaginaire derrière. Alors les auteurs, moi j'y ai participé, j'ai mis ma petite patte, mais je dois un grand merci à Xavier Pétillon, à Mathieu Doré et à tout le groupe des Philogénix derrière qui ont véritablement construit cette chanson.
Voilà, et on est vraiment dans le ton d'Alternativa, c'est-à-dire qu'on réfléchit, on est dans la réflexion, mais on est aussi dans la convivialité, dans la rencontre. Hein.
Voilà, à un moment, c'est très bien de faire des constats, c'est très bien de faire réfléchir. Mais à un moment, redonner du sens aux choses, c'est aussi d'être dans la convivialité, c'est-à-dire tout simplement d'être dans le sourire, d'être dans le partage d'un truc qu'on a fait. Et cette chanson, c'est un peu l'esprit qu'on a voulu transmettre à tous, quoi.
Eh bien, on l'écoute, la chanson d'Alternativa, on l'écoute maintenant.
Arrêtons de naviguer.
naviguer au pif. Quel que soit notre genre ou notre espèce, on est en train de cuire tout vif. Et ça chauffe un max pour nos fesses. Arrêtons de naviguer au pif, car la réponse est juste là. C'est le courant alternatif, ça s'appelle l'alternativa.
Chica chica cha, hey 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 hey, hee ha, hey hey, chica chica cha, hey hey hey.
Arrêtons de naviguer au pif, quel que soit notre genre ou notre espèce, on est en train de cuire tout vif. Ça chauffe un max pour nos fesses. Arrêtons de naviguer au pif, car la réponse est juste là. C'est le courant alternatif, ça s'appelle alternativa. Hee ha. Cha-cha-cha, hey-hey-hey-hey, hee-ha, hey-hey, cha-cha-cha-cha, hey-hey-hey-hey.
Près d'ici, nous sommes toute une tribu qui déraille et qui brandit les chaînes. Braves gens, regardez-nous dans les rues, nous sommes les chevaliers de la petite reine. Et nous, on nous prend pour des fous, on passe notre temps le nez dans les poubelles. On fouine, on ramasse un peu de tout, et pourtant la vie nous est plus belle.
Arrêtons de naviguer au pif, quel que soit notre genre ou notre espèce, on est en train de cuire tout vif. Ça chauffe un max pour nos fesses. Arrêtons de naviguer au pif, car la réponse est juste là. C'est le courant alternatif, ça s'appelle l'alternativa. Hey 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 hey, hee-ha, hey hey, cha-cha-cha-cha, hey 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 hey.
Prendre ou donner le pouvoir, c'est du théâtre de guignol. Discuter, rire, c'est donner de l'espoir, consensus et bâton de parole.
Voilà, on va garder en fond cette chanson d'Alternativa, que vous pourrez sans doute écouter le 28 septembre lors de l'événement, un événement Alternativa dont on parle avec nos invités encore pendant quelques minutes, avec Aurore, avec Gilles, avec Sylvain et avec Hugo. Compliqué de décrire tous les aspects de ce rendez-vous parce qu'il y a de nombreuses propositions. Alors moi j'ai vu par exemple, on peut auto-construire son éolienne, ça, il y a des ateliers qui proposent ça, construire soi-même son chauffe-eau solaire, il y a une démonstration de four solaire avec Bolivia Inti, il y a des exemples d'alternatives énergétiques institutionnelles, ça c'est Nantes Métropole qui va le proposer. Voilà, donc beaucoup d'ateliers pour essayer de sculpter là aussi à des choses qu'on ne connaît pas forcément. Et puis, des partenariats avec Écopole, par exemple. Écopole, c'est une association qui regroupe des acteurs qui sont proches dans l'environnement, je veux dire. Donc, comment ça se concrétise, ce partenariat avec Écopole?
C'est vrai que ça tombe en même temps qu'un dimanche au bord de l'eau est organisé effectivement par Écopole, entre autres. Et ça se passera du côté de l'île de Versailles. Donc, ce n'est pas très, très loin. Donc, l'idée, c'était qu'il y ait des liens entre ces deux événements, à vélo notamment. Mmh. Et qu'il y aura d'ailleurs une vélorution qui va passer un peu par tous ces endroits-là. Et puis, les gens pourront circuler entre ces deux temps forts.
Encore quelques... Oui.
Un dimanche au bord de l'eau, effectivement, ça cible beaucoup les thématiques de biodiversité et qui peuvent venir en complément de ce que nous, on aborde ce jour-là, Alternativa.
Il nous reste 2 minutes. Vous avez besoin de bénévoles? Vous voulez lancer un appel à bénévoles?
Alors, l'appel est bien lancé. Du coup, effectivement, s'il y en a qui sont intéressés, on prend toujours parce que y a toujours besoin de force. Mais effectivement, on aura déjà quand même une bonne équipe à ce moment-là aussi, qui est bien en place. Mais bienvenue, bienvenue.
Et puis, l'appel au financement participatif, il dure jusqu'à quand? Jusqu'à l'événement lui-même ou pas?
Alors justement, l'appel à financement participatif, il fonctionne en deux étapes. La première étape de 40 jours était destinée à récolter 4000 euros nécessaires. Nous les avons brillamment passés. Voilà. La seconde étape de 40 jours supplémentaires est lancée. On essaye d'atteindre les 6000 euros. Nous avons un site web en ligne où vous pouvez trouver justement le formulaire bénévole. Vous trouverez aussi le lien qui vous dirigera vers Gotéo, qui est la plateforme utilisée pour le crowdfunding. Voilà, il y a plein de surprises prévues.
Et puis je sais qu'il y aura aussi un rendez-vous autour, alors moi ça m'intéresse beaucoup, autour des médias alternatifs, hein, notamment avec le webzine Terre Histoire, avec qui on coopère, hein, avec De la Plume et l'écran, qu'on connaît très bien également, Les Pieds dans le Paf, là aussi c'est voilà, décryptage des médias, donc beaucoup de choses. La meilleure façon c'est d'aller sur le site d'Alternativa, dont je vous laisse le soin de nous repréciser l'adresse.
Alors l'adresse c'est www.nantes. D'accord, Sylvain, vas-y, dis l'adresse.
C'est alternativa.eu/Nantes.
Voilà. Et moi j'ai tapé sur un moteur de recherche très connu, Alternativa Nantes, et on tombe directement sur le site. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Revenez, bien sûr. On tirera peut-être le bilan de cette première édition nantaise d'Alternativa. Alternativa va essaimer, vous le disiez, au moins dans 40 villes. Gilles, revenez nous faire la cuisine.
Ah oui, on pourrait parler vraiment popote.
Popote, exactement. C'est chez quel éditeur ce manuel ?
Actes Sud.
Chez Actes Sud.
Actes Sud. Et puis là, on vient de sortir, savez-vous, goûter les légumes secs. Un travail qui sort juste en ce moment chez les presses de l'EHESP.
Très bien. Bon, voilà, autant de références et de bonnes lectures bien saines. Merci. Merci à vous. Merci Aurore. Merci Hugo. Merci Gilles. Et merci Sylvain ainsi qu'à Damien qui a réalisé cette émission. Rendez-vous à partir de 9h avec le marché paysan ce 28 septembre. Puis tout au long de la journée, il y aura des choses à faire. Puis nourrissez-vous de ce qui est déjà construit sur le site internet que nous précisait Hugo. On va se quitter avec la veuve de Stéphane Hessel, Christiane Hessel. Une vingtaine de secondes, là aussi, extrait de ce documentaire tourné l'heure du premier Alternativa de Bayonne. Bonne Alternativa et puis bonne rencontre. Et puis voilà, changeons la société. Au revoir.
Il faut absolument que toutes ces expériences se multiplient et que le message d'Alternativa soit diffusé dans le monde entier, d'abord en France, de ville en ville, de village en village, et qu'il y ait une démultiplication de cette action.